Coucou les nénés, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Je dis bien nous parce que j'ai mon petit bébé koala qui est accroché à moi. Donc si vous l'entendez ronfler, c'est normal. Oui, il ronfle, c'est cette famille. Alors aujourd'hui, j'ai interviewé Marie-Laure. Marie-Laure est ce qu'on appelle une slasheuse. En gros, elle multiplie les casquettes. Elle travaille dans une société d'informatique. Elle a repris ses études et maintenant elle fait du droit. En plus de ça, elle est podcasteuse. Elle a un podcast qui s'appelle Déconstruire la beauté. Et justement, elle nous parle des standards de beauté que l'on a et comment est-ce qu'on les déconstruit. Et en plus de ça, en plus d'être maman, bien évidemment, Marie-Laure est aussi chef d'entreprise, puisque avec sa meilleure amie, elle a lancé Oshun, qui est une marque d'extension et de perruques premium. En gros, elle propose des produits de super qualité, avec des cheveux qui ne tombent pas, des produits durables. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller regarder son compte Insta. De toute façon, je vous mettrai tout en description de l'épisode et vous pourrez voir un petit peu ce qu'elle propose. Aujourd'hui, Marie-Laure va nous parler de son vécu en tant que maman d'enfants métis. Pourquoi est-ce qu'on lui a souvent dit que ses enfants seront plus beaux qu'un enfant noir ou un enfant blanc parce qu'ils sont métis, avec des plus beaux cheveux, avec des plus beaux yeux, etc. etc. Et elle va également nous parler de son couple mixte, de la façon dont il est vécu dans sa culture haïtienne et pourquoi est-ce que pour certains, elle a tiré le gros lot. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous connaissez la chanson. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à le noter en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'hésitez pas à le partager et à venir en débattre en commentaire sur Instagram. Ça serait super. Bisous. Coucou Marie-Laure, comment tu vas?
Bonjour Nadia. Ça va? Oui, merci de me recevoir à ton micro. Ça me fait très plaisir de te rencontrer.
Moi aussi, ça me fait super plaisir de t'avoir. Surtout que voilà, on a discuté un petit peu avant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup de points communs. Mm-hmm. Donc là, c'est plutôt top. Et puis justement, bah, aujourd'hui, on va parler de ton expérience en tant que maman. Donc maman de deux enfants métis.
C'est ça.
Voilà, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter?
Alors, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants de 4 ans et 1 an et demi, Isaac et Isis. Je suis la cofondatrice de Oshun, c'est une marque de perruques et d'extensions premium que j'ai cofondée avec ma meilleure amie Kim. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis un peu hyperactive. Donc, entre autres, je fais ça et puis j'ai un travail corporate aussi.
D'accord. Bon, alors vous entendrez, hein, on a un invité surprise qui est mon Titi, qui est avec nous, qui nous fait des petites.
Des petits gazouillis. Exactement. Et on adore les bébés, donc c'est pas un problème.
C'est mignon.
Ouais, c'est mignon.
Alors Marie-Laure, tu as grandi à Cergy.
C'est ça.
Voilà, dans le 95, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était?
Alors c'était trop bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cergy, c'est une ville géniale. Mm-hmm. Tous les gens qui viennent de Cergy adorent Cergy.
Ouais.
C'est une ville multiculturelle où tu peux grandir avec de tout. Il y a les 12 colonnes qui sont magnifiques, la base de loisirs.
Ouais.
C'est une ville de banlieue assez éloignée.
Oui.
Quand tu grandis à Cergy, ben, t'es grave pas au courant de ce qui se passe à Capitale. T'es grave pas au courant du... Tu vois, le 93, Saint-Denis, pour toi, c'est le Far West.
Ouais.
Aller à Clignancourt, tu vas à 15. Ouais. Parce que tu vas avec toutes tes copines, tous tes potes. Tu rameutes tout le monde parce que tu vas au puce.
Ouais.
Mais sinon, c'est vraiment... Il y a des bonnes écoles. Il y a les SEC. Mmh. Donc, c'est quand même la deuxième école de commerce de France. Après HEC, donc c'est quand même, ça bouge, c'est une ville jeune. C'est une ville jeune, ça a été fondée dans les années 70, c'est hyper jeune, mais c'est hyper cool. Enfance très heureuse, très choyée.
Ah, moi, je connais un petit peu Cergy parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'allais soit à la Défense pour sortir, ou alors au marché de Cergy.
Oui.
Parce que le marché, il est ouf, il est super grand, il y a plein de trucs.
C'est tellement bien le marché.
Exactement.
Tous les samedis, j'allais
faire ça. C'est ça, pareil. Tu vois, j'allais avec mes copines, on allait, on achetait des habits et tout, parce que bah, c'était beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait trouver autour de chez nous. Et bah, c'est comme ça que moi, en fait, que j'ai connu.
Oui,
et par rapport à ce que tu dis, c'est, ce qui est vrai, c'est que, en fait, comme tu as tout, tu n'as pas besoin de partir.
Non,
t'as pas besoin d'aller à Paris.
Il y a tout, ça.
Parce que tu as tout. Voilà, justement, même nous, les produits africains, par exemple, bah, on allait, en fait, il y avait un magasin pas loin de la gare. Et c'est là-bas, en fait, qu'on faisait les stocks avec ma mère.
Ah, vous étiez à Bilal?
Voilà, chez Bilal.
Ah oui, bah, nous, voilà. Avant, on allait à Château Rouge quand on était petite. Et Bilal, après, ils ont pris le marché parce qu'ils en ont ouvert deux.
Exactement.
Un vrai, un Cergy. Et après, on allait à Bilal. Exactement. Mais Bilal, c'était notre vie.
Ouais.
C'était... Moi, tous les dimanches, j'allais à Bilal avec Opadi.
Voilà,
tout. Exactement. Cola champagne. Ah oui, parce que je n'ai pas dit, mais je suis d'origine haïtienne. Donc, cola champagne, calalou, poisson fumé, tout ça.
Exactement.
Tout le igname et voilà.
Ouais, igname et...
Ouais, ouais.
Comment ça s'appelle?
Manioc. Ouais, manioc.
Voilà, c'est vrai.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et professionnel?
Ah, scolaire, c'est quelque chose. Donc, j'ai fait un bac L, sans grande conviction, mais j'étais trop occupée à sortir pour le d'étudier. Donc, j'ai fait un bac L moyen, quoi, avec 12 de moyenne.
C'est pas mal.
Ouais, je suis allée à la fac à Villetaneuse, où j'ai fait une licence de communication parce que je ne savais pas quoi faire. En plus, je ne sais pas, comme personne, je ne me sentais pas, je pense, assez intelligente ou capable pour faire mieux. Sinon, si j'avais vraiment choisi, j'aurais fait histoire parce que j'étais folle d'histoire.
Ah,
ouais, et j'avais, c'était la matière où j'avais aimé. En autre, j'avais 15 de moyenne à chaque fois, j'aimais trop.
Ouais.
En plus, j'avais une mémoire de fou, donc je retenais toutes les dates et j'étais grave bonne. Et à chaque fois, je dis, bah, je veux faire histoire parce que j'aime ça. Et les gens me répondaient, mais tu vas faire quoi après avec... Tu vas faire quoi après avec un master en histoire? Histoire, c'est pour faire un truc après. Il faut faire prof d'histoire. Bah non, moi, professorat, non. Après, je dis, bah, je ne sais pas, c'est pour faire journaliste. Tu vas faire journaliste? Je fais, bah non. Bah, alors, tu vas faire quoi avec... tu vas aller en fac d'histoire, tu vas faire quoi après? Je dis, ah bah j'avoue, ah, bah, vas-y, je vais faire communication. Donc, j'ai fait la fac 3 ans et après, je suis allée en école privée à l'EFAP. Ouais, c'était... Ouais,
bah, premier... C'est réputé quand même.
Ouais, mais première incursion avec Paris, première incursion où tu vois que t'es pas la même classe sociale des autres.
Ouais.
Je me sentais grave différente. Et tout de suite, pour le stage, par exemple, les FAP, ce qui est bien, c'est que t'as des longues périodes de stage, et ben j'ai fait la mairie de Sergi. J'avais besoin de retrouver mes racines là-dedans. J'avais besoin de retrouver mon ghetto.
Ouais,
et à Sergi, on faisait plein de festivals. Et surtout, il y a, je sais pas, le Sans Conteste, tu avais entendu parler.
Oui.
Il y avait Kerry James et tout ça. Et je bossais à la com du Sans Conteste.
Ah,
donc franchement, j'ai fait des stages sympas.
Ouais,
j'ai fait deux années de stage là-bas. Et c'était trop stylé parce que j'ai appris plein de trucs. J'ai fait plein de festivals Sans Conteste. Mais quand tu es dans les coulisses, dans leur regard, c'était trop bien. Donc, j'ai fait ça. Et après, bon, les FAP. Bon, il faut que tu as le diplôme. Et après, je suis partie à New York parce que je voulais apprendre l'anglais. Et j'avais de la famille là-bas. Et donc, je suis allée là-bas. Je faisais rien de spécial. Je m'étais inscrite quand même dans une école de langue pour dire que je fais quelque chose. Histoire de, comme ça, si on me demande ce que je fais, bah, j'apprends l'anglais à New York. Mais bon, c'était pareil pour ça. Je sortais beaucoup.
Tu profitais de la vie, quoi.
Ouais, voilà. J'ai 22 ans, 23 ans, je sortais tout le temps.
La base.
Je crois que mes cousins m'ont fait, mais nous, on ne savait pas que les Françaises vous étiez comme ça. J'ai fait, mais elles disent, mais toi, la Loury, là, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire Marie, leur trop compliqué, mais toi, Loury, t'es folle. J'ai fait, tu dis ça, elle fait, mais on croyait que t'étais toute sage et tout. Et là, tu sais, je fais, bah, je sais pas, j'aime bien les soirées hip-hop et tout. Donc, je suis revenue et c'est après la crise de 2008-2010, les subprimes, où il n'y avait pas de taf, où c'était là, c'était chaud, économiquement c'était chaud. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire, le truc que je sais bien faire, les études. J'avais un master 2 à l'ESC, l'European Communication School, une école à Neuilly, là, Levallois, je ne sais même plus. Et pareil, je suis entrée en stage chez Estée Lauder. Et après, qu'à continuer sur un CDD, je bossais pour chez MAC Cosmétique à la communication.
Ah, génial, chez MAC.
Ouais, c'était super, j'ai appris plein de trucs. Et là, j'ai vraiment appris les RP.
Ouais.
Au moins, autant les FAP, bof, mais en stage, en pratique.
Ouais.
Là, c'était vraiment le vrai apprentissage. Et je pense que je suis vraiment rentrée dans le monde du travail avec chez Estée Lauder.
D'accord. Tu es donc maman de 2 enfants.
C'est ça.
Comme on l'a dit tout à l'heure, 2 enfants métis.
C'est ça.
Leur papa, il est d'où exactement?
Il est moitié breton et moitié du Nord.
D'accord.
Son père est breton, donc il a un nom de famille breton.
Ouais.
Et sa mère vient du Nord.
Ok, mais donc qu'est-ce qu'il mange le plus? Des crêpes, enfin des galettes
ou
des frites?
Je sais pas, plus crêpes quand même, ouais.
Ouais, c'est meilleur.
Hein, ouais, plus crêpes, pas trop frites.
Ouais. Et au final, dans votre quotidien, comment est-ce que vous faites pour concilier vos deux cultures? Donc toi, ta culture d'origine haïtienne,
ouais.
Et lui, sa culture bretonne et du Nord. Comment vous faites au final?
Bah, du coup, moi, j'essaye beaucoup d'appliquer, d'inculquer la culture aux enfants. Parce que déjà, on vit en France, on parle français, donc la culture française arrive à l'acquérir, de fait, en allant à l'école, donc ça sert à rien que... Ben, bien sûr, je vais pas commencer à lui parler de Napoléon et de Louis XVI, on va lui dire. Donc moi, je parle d'autre chose, donc je parle beaucoup d'Haïti, de tout ça, l'ouverture, je parle en créole à mes enfants, j'essaye un petit peu, j'ai pas le réflexe, parce que j'ai le réflexe de parler français, mais moi, comme je parle couramment créole, j'essaye de leur parler... en créole, et je fais des plats, je me suis mise à faire des plats, et je leur explique que ça, voilà, c'est un plat de chez maman, ça s'appelle comme ça, et c'est mignon parce que ça veut dire quelques petits mots, tu vois, ça veut dire je t'aime en créole, moi, Ramao, Genre, mon fils, il dit ça, c'est trop
mignon.
Il dit, moi, Réla Isaac, c'est-à-dire qu'il s'appelle Isaac et tout. Je dis qui la joue. Il me dit, tu vois, il me dit des petits trucs et tout. Et donc, des comptines aussi en créole. Ouais, les comptines que je leur mets sur Spotify. Je leur chante des chansons et beaucoup de compas aussi. Donc, beaucoup de compas. Ouais. Comme ça, ils se familiarisent. Le compas, c'est que en créole.
Ouais.
Donc, voilà, on essaye. J'aimerais bien aussi, quand la situation politique sera meilleure en Haïti, donc ils seront plus grands, les emmener là-bas. Ouais. Et mon mari est déjà venu en Haïti avec moi.
Mais non,
mais oui, c'est un vrai, lui. En 2016, il a adoré. Il parlait créole et tout. Il était là comme ça. C'était trop bien. C'était un de nos meilleurs voyages.
Ah, c'est top. Ouais. Et justement, en fait, comment ça s'est passé quand tu l'as présenté à ta famille?
Ben, très, très bien. Ça s'est très bien passé. Après, voilà, moi, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, l'angle un peu, c'était la fétichisation des enfants métis. Parce que je trouve que parfois, les gens, les noirs, ils sont trop... dès qu'il y a un blanc, on dirait que ça va être meilleur. Ouais. Ça va être mieux et ouais. Ça m'agace un petit peu. J'aime pas du tout cet état d'esprit là de coloniser où on va dire ah bah tes enfants vont être beaux, ah ton mari il est blanc, ah ils vont être beaux, ah peut-être qu'ils vont avoir les yeux bleus ou peut-être qu'ils vont être comme ci ou peut-être qu'ils vont être clairs. Là ça me saoule parce que ce sont des enfants, faut leur laisser. Les enfants métis ne sont pas plus beaux que les enfants noirs en fait, donc faut arrêter avec ça. Ça me stresse. Et que surtout quand on était en Haïti, ils le regardaient comme un demi-dieu. Quand on allait au village, encore à Port-au-Prince, parce qu'il y a d'autres blancs et tout ça, et encore, mais quand on allait au village, c'était pas possible.
Genre, t'as gagné.
Ouais. Un blanc, t'as gagné. Ouais, il appelait blanc, 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 blanc. Blanc, blanc. Bon, mon petit là, genre, bon, c'était pour taxer, ouais. Mais blanc, blanc, c'était trop. Genre, ma quand même sorti, bon, pour rigoler, tu vois. Ah oui, bon, Marie-Laure, toi, t'hériteras plus, de toute façon, parce que maintenant, t'es avec un blanc, t'es riche.
Ah ouais.
What? Ouais, je fais demande-moi porte d'héritage, ouais. Et ils sont toujours un peu, voilà, surtout sur les enfants, à projeter en fait comment ils vont être. Parce que tu vois, les Haïtiens, c'est une société hyper coloriste. Parce qu'en Haïti, ceux qui sont en haut de l'échelle sociale, qui sont les plus riches et les coulis, les chabins et les métis, les clairs, et ceux qui sont en bas, ben, c'est les noirs. Et du coup, ils se sont, dès que tu as un enfant métis, ils pensent voilà, que t'as économiquement, t'as fait un meilleur placement, que aussi sur la beauté, que tes enfants vont être plus beaux. Et donc, c'est vrai, c'est hyper dérangeant. Et je trouve, moi, j'aime pas les remarques aussi sur les cheveux. Ah, ben, ils vont avoir des beaux cheveux. Ben, pourquoi? Parce que les cheveux crépus, c'est pas beau. Enfin, pourquoi ils vont avoir des beaux cheveux nécessairement? Ils peuvent être... non, en fait, je veux pas qu'on projette des choses comme ça sur mes enfants. Et je trouve ça malheureusement. Et de la part des blancs.
Ouais.
Parce que j'ai des anecdotes aussi, sont problématiques, hein. Il n'y a pas que les noirs sur ce sujet. Ils vont être, on était samedi dernier, on était au centre commercial, donc on avait mangé une crêpe et tout, tous les quatre. Et là, il y a une dame blanche, jeune en plus, elle s'arrête devant ma fille, elle la prend limite, elle lui dit oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là, c'est une poupée, mais elle est tellement belle. Et elle répète ça fort comme une folle, et elle est avec son mec noir, et elle, à un moment, elle dit, bah alors, c'est quoi ses origines? Comme ça, dans la troupe de la crêperie, je te jure, Adia, j'ai été choquée, mon mari faisait la queue et tout ça, je le regarde comme ça, je suis restée choquée, et je l'ai prise comme ça, et en plus, elle commençait à la prendre pour lui faire des câlins et tout ça, moi, j'aime pas qu'on touche mes enfants, et moi, je la prends, je la tire comme ça, je la porte et tout, et je fais, ah, elle est haïtienne, et je m'en vais comme ça, en courant, et ils projettent, en fait, tu vois, comme si ils avaient jamais vu en fait. Ah, elle est belle, oh, tu vois, et c'est hyper dérangeant.
En fait, il y en a plein aussi qui disent que voilà, le métissage, c'est ce qui va sauver le monde.
Mais c'est bidon, on va rien sauver. Il y a toujours des métis, le monde, il va toujours si mal.
Exactement, il y aura du racisme tout le temps.
Mais
en fait.
Oui.
Et c'est pas tes origines qui vont faire que les choses vont changer ou ton physique.
Non.
C'est juste comment en fait tu l'abordes pour toi.
C'est ça.
Et moi, je trouve ça aussi un peu malsain au niveau des enfants parce que si par exemple. Toi, ton fils, on lui répète tout le temps, t'es beau, t'es beau, t'es beau, parce que tu es métisse. Et bien, ses cousins blancs ou ses cousins noirs, il ne va pas forcément peut-être les trouver beaux.
C'est ça.
Parce qu'ils ne sont pas métisses, tu vois.
C'est ça. Ben, mon fils, déjà, on lui disait, ah, mais, et j'en suis sûre, en plus, ses enfants, ils entendent, ah, mais t'es pas trop noir.
Voilà.
Ah, mais ça va, t'es pas trop noir. Ah, il est blanc, mais c'est blanc qui disait ça. Hein. Ah, mais il n'est pas trop, typé, Isaac.
Ouais.
Et t'es pas trop typé quand t'es petit.
Sinon,
il commence à être typé là, ça se voit plus avec ses cheveux, tu vois. Après, je fais comment ça? Donc, anecdote, là encore, avec ma nounou. Donc, c'était l'année dernière, on faisait le premier rendez-vous pour faire le contrat. Donc, avec mon mari, Isaac, Isis, on était tous les quatre. Et ma fille était dans mes bras et la nounou a dit, Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle aura des beaux cheveux, pas comme son frère. J'ai fait, comment ça, pas comme son frère? Son frère, elle a des très beaux cheveux.
Oui.
Après, elle dit, non, non, mais je veux dire pas des cheveux bouclés. Je fais, mais, ah non, non, non.
Oui.
Après, elle a bégayé, non, 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 mais oui, c'est vrai, il a des très beaux cheveux aussi, il a des très beaux cheveux.
Donc, tu vois, là, elle dit ça devant toi. Comment ça se passe quand t'es pas là?
Et après, j'ai dit à mon mari, t'as vu? Elle a été problématique. Il a fait, c'est vrai, elle a été problématique. Et le pire, c'est que si tu ne l'avais pas reprise, moi, j'ai même pas calculé et tout ça, là, non. Et donc, sa nounou est blanche. Donc, elle a fait ce genre de... Déjà, je déteste qu'on compare les enfants entre eux.
Ouais.
Sur le plan physique, à chercher...
Physique et intellectuel,
Ou
hein.
être intellectuelle, ouais,
Voilà.
voilà. Et alors, encore plus, là, devant eux, elle aura... Ah, elle a des beaux cheveux, hein, pas comme son frère.
Non,
Elle a
ça,
quand
c'est
même
vrai.
ajouté le pas comme son frère. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir des enfants métis dans une société raciste parce qu'à chaque fois, tu vois, on leur demande leurs origines, on leur demande tout de suite, on va leur dire est-ce qu'ils sont beaux, des trucs comme ça. Donc c'est un peu, et puis moi qui suis hyper, tu vois, qui m'agace vite et tout, et je, voilà, mais bon.
Et puis surtout, s'il ne ressemble pas au cliché des métis. Donc, par exemple, si ton enfant n'a pas les cheveux bouclés, mais qu'il a les cheveux crépus,
Oui,
ou
c'est ça.
s'il est foncé,
C'est les foncés, ouais.
voilà des choses comme ça. Et bien, en fait, on va leur dire, en gros, du genre, ton métissage, il est raté parce que
Mais
tu as les
c'est
cheveux
ça,
crépus, tu vois. Ou des trucs. Et enfin, ça reste des
c'est
enfants.
ça. Eux, leur idéal, c'est vraiment, voilà, les yeux clairs, les cheveux verts et les grosses boucles. Mais
Exactement, c'est
ouais,
ça,
c'est
c'est ça.
ça.
Et alors que tu n'as même pas besoin d'être métisse pour être comme ça, en fait.
Déjà, ouais,
Déjà,
déjà.
de base. De un et de deux, en fait, quel genre de personne ça va faire d'eux en tant
C'est ça,
qu'adulte?
c'est ça.
Parce que bah, au final,
Ils vont se
ça.
sentir pas assez bien, pas assez beau.
Exactement, c'est ça, pas
Pas
assez
assez
bien, pas
beau,
assez
pas assez
beau.
beau, pas
Ils ne se sentent pas
assez.
bien dans leur peau.
C'est ça.
Et eux-mêmes, après, pourront projeter en fait ces.
Entre une fratrie aussi, ah ben ma soeur a reçu plus de
Mais j'allais
compliments que
dire.
moi, ben moi ça veut dire que je suis moins beau.
Oui.
Donc il faut faire très attention, je fais hyper attention à ça. J'ai mon fils qui est beau tous les jours,
Ouais.
j'ai ma fille qui est belle tous les jours, bien entendu, mais aux deux. Et je fais hyper attention à ce qu'ils ne se sentent pas délaissés ou qu'ils ne se sentent pas. De toute façon, moi j'ai dit, je le répète souvent, je le dis souvent à tout, que moi je ne fais pas de pédagogie. C'est-à-dire quelqu'un il dit un truc à mes enfants, je saute à la gorge. Il le touche ses cheveux, enfin il lui dit un truc qui ne me plaît pas, je saute à la gorge. Je
Oui,
fais
t'as
pas de
raison.
pédagogie, je suis pas là pour être sympa, pour marcher sur des œufs, dire à des gens, tu fais mon enfant se sentir mal parce que à cause de son physique, je te saute à la gorge et voilà, on règle ça comme ça.
Non, mais
Faut
c'est franchement, et il fut un temps où je t'aurais dit, non, mais quand même, il faut
parler,
discuter, il
ouais.
faut parler et tout.
Mais t'es maman, tu sais.
C'est ça, franchement, et puis la flemme, quoi. Il y a beaucoup de gens qui le font. Si tu cherches vraiment de la pédagogie, bah, tu as énormément de
Google est ton
possibilités.
ami.
Voilà, Google est ton ami, tu as des podcasts, tu as des émissions, tu as plein de trucs. Donc, au bout d'un
Plein de
moment,
ressources.
voilà, c'est ça, voilà, exactement, tu as plein de ressources. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi un manque de volonté. C'est aussi un manque de volonté. Toi, on te reprochera peut-être, bah ouais, tu es agressive. Bah, c'est pas grave, en
C'est pas
fait.
grave.
C'est pas
C'est
grave.
pas grave. Mon agressivité, elle va dire 2 secondes, je vais redescendre, je vais monter, je vais redescendre, après je t'aurais déjà oublié.
Oui, non, t'as raison.
Voilà.
Non, mais t'as
Je vais déjà
raison.
passer à autre chose
Ouais.
que rentrer dans la pédagogie et tout ça. Et mon enfant aussi, il aura vu que sa mère le défend, et ça, c'est hyper important.
Hyper
C'est
important.
hyper important. Il verra que, oh là là, oh, maman, elle sort l'écrou
Bah oui.
dès que quelqu'un dit un truc, ou papa, il sort l'écrou, donc
Il se sent en sécurité.
c'est ça, il va sentir en sécurité, il va dire, oh là là, mais on peut rien
Ouais.
me faire, hein, sinon j'appelle ma maman. Moi, je
Mmh.
veux être ce type de maman. Genre, où vraiment, ah ouais, tu m'as dit ça? Moi, je vais le dire à
Je vais dire à
ma maman, hein,
maman.
tu vas voir, hein, tu vas pas aimer.
Ouais, c'est
Tu vas pas
vrai.
aimer la rencontrer.
Ouais. Non, mais t'as raison. Et est-ce que tu mets en place par exemple, je sais pas, tu lui achètes des livres particuliers ou des choses?
Oui.
Ouais.
Alors que tu me connais, je suis une passionnée d'histoire
Ouais.
et j'ai la petite série, un livre pour enfants qui s'appelle Quelle histoire? Et
Ouais.
c'est à chaque fois sur un personnage. C'est une petite biographie pour enfants,
Ah, je
pour un
connais pas.
personnage.
D'accord.
Ben, faut que tu ailles voir. Donc, mon mari, il a acheté le premier, c'était Angela Davis. Là, on a acheté qui? On a acheté Aimé Césaire.
Ouais.
Aimé Césaire, on a acheté Martin Luther King. Et
Cool.
j'aimerais bien leur envoyer un mail justement à l'éditeur pour qu'il en fasse un sur Doussin d'ouverture.
Ah
Parce qu'il
bah ouais,
n'y
ce
a
serait
pas.
top.
Ouais. Et c'est vraiment vocabulaire d'enfant, c'est un petit livre pour enfants en fait,
Ouais.
hein, avec des biographies où ils sont dessinés, tout ça, et c'est trop mignon. Et j'adore lire ça à mes enfants le soir.
Non, c'est top.
J'adore les sensibiliser déjà.
Ouais, et franchement, les contacter pour qu'ils passent sur tout ça l'ouverture, je pense que c'est vraiment une
Ouais.
super idée. Peut-être que c'est dans les tuyaux, on
Peut-être
n'en
c'est dans
sait
les
rien.
packs, il y en a plein. Après, ils ne font pas que sur les personnages racisés. Hein. Il y a
Oui.
Napoléon, Cléopâtre, enfin, il y a tout. Ça s'appelle Quelle histoire? C'est vraiment pour
Oui,
les enfants.
c'est ça exactement. Mais justement, en fait, le fait qu'ils s'attardent aussi sur des personnages noirs, parce que ça te permet
Voilà.
de pouvoir choisir
C'est
aussi.
ça. C'est
Parce qu'on
ça.
n'a pas souvent la possibilité de pouvoir choisir C'est ce qu'on va, et ce qu'on va donner à nos enfants pour leur culture ou autre.
Ouais.
Souvent, c'est maintenant un peu moins parce qu'on a la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité d'avoir des choses de plus en plus diversifiées en termes de culture. Mais pour des choses, pour des faits historiques, par exemple, adaptés aux enfants sur des personnes noires et racisées, on n'en a pas forcément. Et donc là, ce que tu dis, bah, c'est bien d'avoir juste la possibilité de pouvoir choisir. C'est entre ça. Napoléon,
c'est ça,
et Martin
Luther, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça,
tu vois.
Et du coup, on leur lit ça. Moi, j'offre des poupées à mes enfants, là, à mon garçon aussi, j'offre des poupées à mon fils noir et à ma fille des poupées noires. Parce que je sais qu'ils vont de toute façon recevoir des poupées blanches aussi, voilà, chez nous. Donc voilà, pour qu'ils aient des poupées noires, c'est hyper important.
Exactement, bah, qu'ils sentent que bah, y a de la diversité partout en fait.
Parce que moi, j'avais des poupées blanches quand j'étais petite. Hein. J'ai pas de poupée noire, je pense que j'aurais aimé avoir une poupée noire.
Ouais. Bah, voilà, et moi c'est le contraire, tu vois. Si j'avais une poupée noire.
T'avais une poupée noire ?
Ouais,
oh,
mais
trop cool.
Non, justement, parce que ma mère m'a dit que j'avais peur de la poupée noire. Parce qu'en fait, c'était la seule.
T'étais problématique.
Je te jure. Mais en fait, c'était la seule poupée noire de tout mon entourage. Quand j'allais à l'école, il n'y avait pas de poupée noire,
ah,
il y avait
oui,
des poupées blanches, etc. Et ma mère m'a dit qu'en plus, la poupée noire, elle n'était pas belle, quoi. C'était genre pas, elle n'était pas bien faite, etc. Mais comme elle, c'était la seule poupée noire qu'elle avait trouvée, elle me l'avait achetée. Elle m'a dit que j'en avais peur et je l'ai jetée à la poubelle. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, bah, justement, tu as des vraies poupées qui ressemblent à des bébés, des trucs.
Mmh, tout, ouais.
Voilà, exactement.
Même dans les magasins mainstream, il y a des poupées.
Voilà, noires. Exactement, tu vois. Et voilà, montrer aux enfants que tu as de tout, en fait, tout simplement.
Bah, qu'ils jouent avec une poupée qui leur ressemble, quoi. Voilà.
Tu ne la jettes pas à la poubelle.
Ouais, c'est faux.
C'est faux. Et alors là, j'ai posé une question récurrente que je pose voilà, à toutes les mamans que j'avais dans la saison 1 mais que je garde aussi aujourd'hui dans la saison 2. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère ?
Moi, c'est quand on me posait souvent.
Ouais.
Ouais. Ouais, quand on me posait souvent, moi, je fais oh, ça y est, je suis responsable de quelqu'un.
Ouais.
Ça y est, c'est mon petit, c'est mon fils à moi, c'est que moi. Il est que, on l'a fait avec David, que nous. C'est à nous, c'est trop mignon. Mais...
Et le fait d'avoir une césarienne, est-ce que tu penses que ça a joué en fait sur... Parce qu'après, bon, c'est, par exemple, pour ton premier, tu n'as pas d'élément de comparaison.
Mmh.
Mais est-ce que tu penses que ça a joué par rapport à ce que tu... Parce que tu as une césarienne d'urgence.
Mmh, d'urgence, ouais.
Voilà, est-ce que tu penses que ça a joué sur la façon dont tu t'imaginais devenir mère ou pas ?
Non. Non, parce que l'amour, elle était là, j'ai eu la profusion et tout. J'ai pas aimé mon accouchement, ben, naturellement. Mmh. Je pense que j'étais à milieu... de penser que j'allais faire une césarienne, j'avais un petit bébé, j'étais en forme, j'étais hyperactive pendant ma grossesse, j'avais aucun souci, donc pas de diabète, pas de truc, et moi je pensais ben voilà quoi, que le pire était derrière moi, que ça allait hyper bien se passer, donc j'ai pas eu l'accouchement que je voulais, mais quand ils m'ont posé, j'ai tout oublié.
Ouais.
J'ai tout oublié, c'était pas grave, il était là, il était en vie, il était tout mignon, tout rose, tout bien. Ouais. C'était le plus important.
Ouais. Et justement, bah, c'est ce qui nous fait aussi oublier, enfin, ce qui nous pousse aussi à recommencer à avoir d'autres enfants. C'est que tu souffres, tu dors pas, t'as mal et tout. Mais en fait, après, quand ils sont là, tu oublies. Quoi.
T'oublies. Tu te poses sur toi là et que vos deux cœurs ils battent au même rythme là, et là, t'en peux plus.
C'est trop mignon.
Et t'es transporté, tu penses même plus aux petits désagréments.
Ouais, c'est clair. Et donc, la dernière question, est-ce que tu as une anecdote concernant toi et ta maman ou un conseil qu'elle t'a donné à nous partager ?
Oui, alors ma mère, elle est hyper marrante. Ouais. Pour ceux qui la connaissent, elle est hyper marrante, hyper nature. Donc, elle a eu 6 enfants, sans césarienne et tout. Et je lui dis, donc au tout début, avant d'avoir Isaac, hein, et tout, parce qu'avant d'avoir Isaac, j'ai fait une grossesse extra-utérine.
Ah oui, d'accord.
Donc, j'appelais beaucoup ma mère et tout. J'ai fait, mais alors, est-ce que toi, tu as eu des problèmes de fertilité ? Est-ce que tu as déjà fait des fausses couches ? Et que, est-ce que, comment ça s'est passé ton aventure maternelle ? Parce qu'au final, je n'avais jamais posé la question et je ne savais pas comment c'était son parcours. Et elle m'a regardée, elle m'a fait, les bébés sont toujours venus, moi je pousse et c'est ça. J'ai fait, mais du coup, il n'y a pas de projet de naissance en amont. Elle fait, non, moi je sais pas, les bébés sont là, je fais ça. Donc, pour ceux qui sont qui nous écoutent, elle m'a montré un geste où elle s'est dandinée de à gauche, à droite, et puis c'était là. Donc, j'ai fait, ah ouais, donc, je fais, toi, c'était facile. Hein. Elle fait, oui, moi c'est pas, je connais pas. Hein. En gros, toi la française, là, il y a des problèmes, là, moi je connais pas ça, faut me laisser, pardon. Donc voilà, sympa ma mère. Donc j'ai dit, ah bah ok, d'accord. Ok.
Non, mais ce que tu dis, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles avaient vraiment une approche différente de nous.
Du nos sous sahel.
Ouais, clairement, parce que ma mère, c'est pareil. Ma mère, elle a eu 4 césariennes.
Ouais.
Et en fait, elle me disait, ah ben moi, j'arrive à l'hôpital la veille, je me couche, et puis le lendemain, bah, ça y est, pour la césarienne, c'est fini. Hein. Je reste 2 semaines, après, j'entre à la maison. Donc, toi, tu as cette expérience de césarienne, c'était ça?
Ouais.
Moi, j'ai souffert. Ouais. Moi, j'avais peur, etc. Elle m'a dit,
une appréhension, ouais.
C'est ça, exactement. J'ai lu plein de trucs, je me suis renseignée et tout. Et elle m'a dit, non, bah, c'est bon. Enfin, j'allais à l'hôpital et puis on m'opérait et puis c'était fini, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que nous aussi, on cherche vraiment à s'informer beaucoup plus sur les choses, sur la façon dont les choses vont être faites, mais également sur leurs conséquences.
Exactement.
Plus que sur d'autres. Après, peut-être aussi pour essayer d'éviter, entre guillemets, de refaire les mêmes erreurs, les choses qu'on a pu ressentir et essayer de faire des choses mieux, entre guillemets, que nos parents. Même si dans tous les cas, de toute façon,
je suis d'accord.
Voilà, on va faire
mais des erreurs. Mais est-ce qu'elles avaient envie d'être mères? Est-ce que ce n'est pas juste les enfants et ils venaient et pou, pou, pou? Parce que nous, tu sais, c'est des désirs ou c'est planifié. On se dit, ben voilà, on aimerait bien, on va faire ça. Ça, c'est planifié avec nos maris, avec nos compagnons. Mmh. Mais eux, on dirait, c'est... Je sais pas, c'est naturel, quoi. C'est juste, puis,
ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de calendrier d'ovulation. Hein.
C'est pas la fin. Non, mais c'est ouf. Bah, voilà.
Donc, une autre génération.
Exactement, c'est ça. Une autre génération. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'enregistre un épisode avec ma mère pour qu'elle me dise...
Ouais, qu'elle te raconte, tu rigoles, ouais, pose lui plein de questions. Tu vas voir, elles sont marrantes.
C'est clair.
Elles sont marrantes et cohérentes, les mamans.
Et puis ça fait du bien quoi, de voir qu'au final elles sont quand même passées par là.
Ouais.
Et qu'elles ont fait de leur mieux, même si on a beaucoup de choses à leur reprocher, elles ont
fait
de leur
mieux. C'est vrai.
Et qu'au final,
avec les moyens du bord. Elles ont fait avec les moyens du bord.
Exactement, exactement. Mmh. Et que nous, même si on fait tout pour mieux faire, au final, en fait, ce sera la même chose. Nos enfants auront, dans tous les cas, des choses à nous reprocher. Mmh. Donc voilà. Mmh. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, Marie-Laure, je te remercie.
Merci, Adia, c'était hyper sympa.
Ouais,
ça s'entend, vraiment... j'espère que ça s'entend.
Ouais, c'était vraiment cool. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, d'être venue nous avoir parlé de ton expérience. Et comme elle l'a dit, donc, elle aussi, elle a un podcast sur déconstruire la beauté.
C'est ça.
Qui est en relation avec donc, sa marque de cosmétiques, sa marque de perruques et de mèches Oshun.
Ouais.
Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations dans la description pour que vous puissiez aller regarder ses produits et écouter ses épisodes.
Merci Adia.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite.